Qu'est-ce que c'est, ce machin?
C'est un détecteur de conneries.
C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout?
Mais dis-tu nos conneries?
Il veut que je lui dise d'aller se faire enculer. Oui, je trouve ça vulgaire.
Salut à toi, l'auditeur. Alors bon, tu t'en doutes bien, avec le couvre-feu, on ne peut pas se retrouver avec les garçons en studio pour faire des épisodes sous le format habituel. Donc on est à nouveau chez nous à faire des petites choses chacun de notre côté. Et moi, j'avais très envie de vous parler d'une ville dont je reviens. J'étais à Rome la semaine dernière et c'est une ville où je vais très très souvent et je me suis dit, tiens, si je ne parlais pas un petit peu du mythe fondateur, de la légende, de la naissance de la ville de Rome, parce que c'est une histoire assez rigolote, et comme on les aime en tout cas. Donc voilà, c'est parti, on débute.
Je ferai de Rome la merveille de tous les temps.
Juste là, un petit géranium.
Ouais, ça va être bien. Ça va être très bien même.
Rome, c'est pas construite en un jour. La verrez quand cette merveille?
En attendant, moi j'ai une louve à soigner et bon courage pour la suite.
Notre histoire, elle commence au 8e siècle avant Jésus-Christ, ça ne nous rajeunit pas et elle ne commence pas à Rome étant donné que Rome n'existe pas encore, mais dans une autre ville du Latium, à savoir Albe la Longue. Donc Albe la Longue, c'est une ville qui est fondée par Ascagne. Ascagne, c'est le fils du héros troyen aîné. Donc là, vous vous dites, ok, on s'en moque, mais non, c'est important de le savoir, ou pas d'ailleurs, mais au moins vous avez l'info. Et tout se passe très très bien jusqu'à ce qu'un des descendants d'Ascagne monte sur le trône. Il s'agit du roi Numitor. Donc Numitor, il devient roi hein, à la place de son aïeul, pas de souci. Sauf que son propre frère, Amulius, va voler le trône de Numitor et il va s'assurer que la descendance de Numitor n'essaye pas de lui revoler le trône à son tour. Donc voilà, le conflit typique entre deux frères qui se chamaillent pour une couronne. Il s'avère que Numitor a une fille, effectivement, qui s'appelle Rhea Silvia et qui pourrait du coup avoir des enfants qui voudraient monter sur le trône. Donc notre Amulius, il va forcer sa nièce Rhea Silvia à devenir une vestale. Une vestale, c'est-à-dire une prêtresse qui se consacre au culte uniquement de la déesse Vesta et qui surtout fait vœu de chasteté, se voit ainsi privée de maternité et de descendance. Néanmoins, notre Rhea Silvia, elle va quand même avoir des rapports, consentis ou non, on ne le sait pas, avec le dieu Mars, et elle va donner naissance, dans le plus grand secret, à deux jumeaux qu'elle va baptiser Romulus et Rémus. Bon, le secret, il dure 3 jours, hein, étant donné que Amulius apprend qu'il a 2 neveux qui sont nés, il a carrément le seum, et il décide de faire disparaître ses bébés, il leur fait ce que j'appelle communément une Moïse, c'est-à-dire qu'il les met dans un panier sur le Tibre, et bien le bonjour chez vous. Donc le panier, il va partir comme ça le long du Tibre, il voyage, et il va tout bêtement s'échouer quelques kilomètres plus loin, contre un rocher ou un vieux rondin, on ne sait pas trop. Une louve passe par là pour venir boire probablement le long du fleuve. Elle entend les 2 bébés pleurer. Elle décide de les ramener dans sa tanière sur le mont Palatin, et elle va les allaiter et les élever jusqu'à ce qu'un homme les trouve et les prennent, les ramènent chez lui et les élèvent comme s'il s'agissait de ses propres fils. Donc pour le moment, tout se termine plutôt bien pour Romulus et Rémus, malgré cette petite aventure dans un panier sur le Tibre. Un petit point d'ailleurs au passage, le terme latin lupa, donc qui signifie louve, peut également vouloir dire prostituée de façon très peu courtoise. Donc est-ce que Romulus et Rémus ont été élevés par une louve ou par une prostituée, ou est-ce que c'est un hasard qu'il s'agit vraiment d'une louve? Enfin, on ne saura vraiment jamais ce que les Romains ont voulu mettre dans leur mythe fondateur, mais en tout cas la représentation a toujours été celle d'une louve et non pas d'une prostituée. Donc bref, nos 2 garçons vont grandir au milieu des collines du Latium. Et un hasard incroyable fait que lorsqu'ils sont adolescents, ils apprennent leur vraie origine et ils vont rencontrer leur grand-père Numitor. Donc Numitor, vous vous rappelez, le roi qui a été chassé par son frère Amulius. Donc Numitor va raconter un petit peu cette mésaventure, il va les reconnaître, il va leur raconter la vérité et ils vont aider parce qu'ils étaient très très forts, vraiment très très forts, donc ils vont aider Numitor à récupérer son trône à Albe la Longue. Et pour les remercier, bah, Pépé Numitor, il va leur filer en cadeau la zone des sept collines où ils ont été recueillis par la Louve. Et ils vont décider, nos deux jumeaux, d'y bâtir une nouvelle ville. Voilà. Donc là, ils ont à peu près 14-15 ans, ça fait déjà une vie bien remplie, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Romulus et Rémus, donc, se retournent dans leur colline, et il s'avère qu'ils sont en désaccord concernant le lieu de fondation précis de leur ville. Donc ils décident d'observer des vautours pour chercher un signe des dieux. Malgré ça, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur l'interprétation et le nombre de vautours qu'ils ont vus. Donc Romulus prend les devants et il fait creuser une marque au sol qui définit l'enceinte de sa ville. Et il menace de tuer quiconque franchirait cette marque au sol. Rémus, qui a toujours été celui des deux qui avait le plus d'humour, a franchi la marque au sol en se foutant allègrement de la gueule de son frère. Et Romulus, qui est un peu plus soupolé et surtout qui est un homme de parole, du coup, a tué son frère Rémus. Donc on n'a plus qu'un seul frère. Romulus se demande comment il va appeler sa ville, et puis assez rapidement, bon bah, Rome, ça lui vient assez vite, étant donné qu'il va donner son début de prénom, tout simplement. Donc Rome se bâtit, mais manque cruellement de femmes, étant donné qu'on trouve Romulus et tous ses compagnons, en fait. Mais il y a très très peu de femmes. Donc on va proposer aux Sabins, qui est un peuple d'Italie centrale et d'Italie de l'Ouest, de l'Est, pardon, un peu plus, de bien vouloir envoyer quelques ouzes à épouser. Sauf que les Sabins se disent ouais, « mais si on envoie des femmes à épouser, on va peut-être se retrouver face à une ville ou d'un seul coup, enfin, qui va devenir une superpuissance et qui dans 20 ans va nous faire la guerre pour nous envahir. Donc non, on va garder nos Sabines chez nous. » Les Sabins donc refusent. Mais Romulus, c'est un petit malin. Et il va organiser une énorme sauterie à Rome, et bien sûr, il va convier plein de peuples voisins, dont les Sabins. Et pendant les festivités, eh bien, tous les compagnons de Romulus, donc les Romains, en fait, vont enlever toutes les Sabines qui sont bonnes à marier, donc en gros, les jeunes filles, et on chasse les Sabins de Rome. Donc les Sabins sont moyen contents, ils préparent une guerre, et quelques mois plus tard, une grosse guerre éclate, les Sabins parviennent à rentrer dans Rome. Mais les Sabines, qui sont restées à Rome et qui ont épousé des Romains, elles sont tombées, d'après les textes, hein, totalement amoureuses de leur mari, et elles assistent du coup à cette guerre dans les rues de leur ville, et elles voient bah, leur père, leur frère, tuer leur mari, et leur mari éventrer leur père et leur frère. Donc elles sont, là je pense qu'on est vraiment dans la profondeur de l'expression « le cul entre deux chaises », et elles vont s'interposer en fait dans les combats, elles vont pleurer, elles vont supplier, et ça va émouvoir tout ce petit monde. Donc, paf, réconciliation. Et ça va même plus loin, il y a une fusion entre Rome et les Sabins. Les Sabins vont décider de transférer leur capitale à Rome, et le roi des Sabins va co-régner avec Romulus jusqu'à sa mort. Ensuite, Romulus récupère sa couronne. Donc voilà, tout va bien qui finit bien. Rome a désormais de jolies familles épanouies, plein de petits bébés à venir, une monarchie bien établie et surtout des millénaires d'histoire devant elle. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour un autre sujet. A plus.
C'est un détecteur de conneries.
C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout?
Mais dis-tu nos conneries.
Il veut que je lui dise d'aller se faire enculer.
Ça vulgaire.
Oui, je trouve ça vulgaire.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.